effectivement.
Oui, oui. Ce n'est pas une crise de la dette, c'est une crise de la recette, on est bien d'accord.
Voilà, c'est une crise des recettes.
Et juste un tout petit mot, c'est une crise des recettes, et puis qui a augmenté, et qui a augmenté de 20% pendant le moment de la crise financière. Donc, d'une manière générale, en Europe, la dette publique, qui était aux alentours des critères de Maastricht, c'est-à-dire 60%, en 2008, elle a bondi à 80, 90, etc., en 2010. Donc, je veux dire, le grand trou, c'est celui de la crise financière. C'est pas celui d'une dépense publique petit à petit qui serait devenue abyssale. Oui, c'est fondamental ce point.
Absolument.
Et là, je te redonne la parole.
Vous devriez le répéter c'est sans cesse, marteler.
Ça, c'est absolument clé. Nous faire croire que la dette, qui est aujourd'hui à des niveaux effectivement importants, s'est creusée petit à petit parce que l'État était dispendieux.
Parce que nous avons
trop
tous
rémunéré,
trop dépensé.
Etc. Ça, c'est vraiment une escroquerie intellectuelle absolument fondamentale.
Mais cette escroquerie intellectuelle, c'est ce qui constitue la doxa
aujourd'hui.
C'est ce que tout le monde a dans l'esprit, y compris la plupart de mes confrères. Vous voulez continuer?
Les exonérations fiscales ont coûté pas loin de 100 milliards d'euros. Enfin, c'est tout à fait énorme ce qu'on a perdu en termes de recettes. Bon, je referme ce chapitre. Donc, premier constat quand même. Il n'y a pas de crise majeure et la protection sociale de financement et la protection sociale n'est pas un puissant fonds. Mais on a limité ses ressources. Et la conséquence, c'est que dans un contexte où on avait une montée du chômage, un vieillissement de la population, eh bien, il n'y a pas de miracle. Si on freine le volume des ressources et que les besoins continuent d'augmenter, eh bien, on diminue le niveau de la cotisation sociale. Bon, c'est ce qu'on a fait avec les multiples contre-réformes en matière de retraite. C'est ce qu'on a fait aussi en matière de santé. En matière de santé, je donne juste un chiffre. 36% des bénéficiaires de la CMU déclaraient avoir renoncé pour des raisons financières à se soigner au cours de l'année écoulée. On a une régression, tendance à la régression de la couverture sociale. Bon, d'une part, on va, avec ces politiques néolibérales, vers une impasse parce que c'est l'accroissement des inégalités, mais elles coûtent plus cher. C'est ça qu'on ne dit pas assez souvent. En France, on a fait des réformes de retraite qui réduisent la couverture publique. Mais dans les pays où existent des systèmes en capitalisation développés et sur une base volontaire, ça coûte très cher à l'État parce que ce sont des dispositifs subventionnés. Premier point. Il y a d'autres coûts cachés qui sont simplement liés aux coûts de gestion. Dans les assurances privées, ce n'est pas 4 ou 5% de frais de gestion comme à la Sécu, c'est 4 ou 5 fois plus, c'est-à-dire 20 ou 25%. Et dernier aspect qui n'est pas négligeable à mon avis, c'est que les inégalités, notamment en matière de santé, elles sont très coûteuses. Parce que quand des personnes ont des difficultés à se faire soigner, elles retardent les soins, et ça traduit par des pathologies plus coûteuses, et puis au bout d'un moment, il faut bien qu'elles aillent se faire soigner, mais alors là, ça coûte cher pour eux, d'abord, évidemment, et pour la collectivité. Et je termine rapidement sur les propositions qu'on fait.
Voilà, c'est ça qu'on attend.
Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Alors, bon, je vais aller très vite sur les propositions, mais elles s'organisent autour de trois idées. Il faut rehausser les minima sociaux, les prestations sociales, c'est le béaba, je dirais, de la protection sociale. Hein. On élève le socle minimal pour garantir des niveaux de revenus suffisants. Je rappelle, par exemple, que le RSA, hein, si on compare aux autres pays européens, c'est un des plus faibles, si ce n'est le plus faible, de la plupart des pays, en relatif, hein, au niveau de vie moyen des autres pays. Deuxième élément qui nous semble tout à fait important, c'est de redonner force à la notion de service public. Et la dernière proposition, la troisième, c'est qu'évidemment, il faut financer tout ça. Et une partie de la solution à ce financement, à notre avis, elle passe par une véritable politique de plein emploi qui se fonde sur un approfondissement, la réduction du temps de travail. Parce que les libéraux, quand on prononce le mot réduction du temps de travail, ils ont tout de suite les cheveux qui se hérissent sur la tête, ils ont des boutons, enfin bon. Or, la réalité n'est pas celle-là. Aujourd'hui, la question n'est pas d'être pour ou contre la réduction du temps de travail. La réduction du temps de travail, elle se voit aujourd'hui avec le développement du chômage, du sous-emploi, de la précarité. Ça, c'est une forme très violente et inégalitaire de réduction du temps de travail. Donc la question, ce n'est pas d'être pour ou contre, mais c'est de l'organiser sur des bases collectives qui permettent à chacun d'avoir un emploi et un revenu décent.
Voilà, on est toujours avec les économistes atterrés qui sortent leur bouquin « Changer d'économie » avec des propositions. On vient d'en entendre. Moi, je voudrais qu'on revienne sur quelque chose. Je suis toujours avec mon numéro du magazine L'Express avec le mot « crise » en rouge sur noir. Il y a beaucoup de choses qui se font au nom de la crise. Hein, on se souvient comment l'attentat du 11 septembre 2001 avait été une aubaine pour les adeptes de la sécurité. Hein, on avait eu le Patriot Act aux États-Unis, mais un peu partout, au nom de la lutte contre le terrorisme, il y a eu un bond en arrière de la démocratie